Voilà, donc on va prendre une demi-heure maintenant pour parcourir les questions que vous avez ramenées, enfin surtout écouter les réponses qui sont apportées. Alors, je vais passer d'abord les questions très générales, on va passer du général et puis revenir de plus en plus vers nos terrains d'action et de préoccupation que sont la formation, la question de l'alphabétisation en tant que telle et des publics en alphabétisation. Donc il y a une première question qui porte sur le traité de Bologne. Pourriez-vous nous dire en un mot sur le traité de Bologne ? Peut-on considérer ce traité comme une des conséquences des politiques européennes en matière d'éducation et de formation ?
Alors, on doit jouer chaque fois à qui se passe la question, et Antoine a dit que la question piège était pour moi. Alors, le traité de Bologne, c'est pas la conséquence, c'est un traité européen, mais je suis même pas sûr que ce soit un traité d'ailleurs.
Je ne sais pas.
Parce qu'on parle de processus de Bologne, et à mon sens, c'est justement un de ces processus non contraignants. Puisque dans le cadre des politiques d'éducation, et là on est vraiment sur l'école, sur la formation initiale, l'Union européenne n'a pas de compétences autres que la mise en coopération des acteurs, stimulation de l'innovation et ce genre de choses. Alors je connais peu le processus de Bologne, donc je ne vais pas m'aventurer trop dessus, mais de ce que j'en connais, c'est qu'il participe aussi à cette mise en transparence, mise en adéquation, alignement des formations, notamment en termes de durée et de contenu, dans les différents pays européens. On avait un système universitaire où on pensait les choses en termes de candidature, puis de licence, et puis de maîtrise, et puis on est passé dans les fameux cycles 3, 5, 7, etc. Précisément pour donner de la transparence et pour rentrer dans un régime d'équivalence qui permet la mobilité. Alors c'est très sympa la mobilité pour ceux qui ont les moyens et pour ceux qui peuvent se le permettre, hein, mais qui permet surtout de rendre visible pour le marché, donc d'améliorer l'employabilité des individus.
Ça va. Alors, une question qui porte plus sur les rapports de force politique au niveau de l'Union européenne aujourd'hui. Après la vague rose, puis la vague bleue, de quelle couleur est la vague aujourd'hui ? C'est aussi une question.
Alors, ce qui a changé entre aujourd'hui et la vague rose aussi, et d'abord, et c'est pas pour éviter la question, c'est qu'on est passé de 15 à 27, je ne sais pas. Et donc, ça a changé aussi la culture et la vision des choses au Conseil. J'ai fait dans le cadre de ma recherche beaucoup d'entretiens avec justement des fonctionnaires nationaux qui participaient à ces processus européens, qui me disaient, il y a des mots qu'on utilise en Belgique parce qu'ils appartiennent à notre histoire, notre culture, etc., qu'on peut pas utiliser au niveau européen. Lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, lorsqu'on parle de secteur associatif, d'économie sociale, si vous dites ça à des représentants des pays d'Europe centrale et orientale qui ont vécu sous la dictature du communisme, etc., ce sont des mots qui sont inaudibles. Hein. Ça devient de l'économie administrée. Et hop, ils repensent tout de suite à la planification et à un rôle omniprésent de l'État dans l'économie. Et donc, voilà, ça a changé les réalités, déjà indépendamment des couleurs politiques. Alors, en effet, pour le reste, la vague rose, aujourd'hui, elle est inexistante. Hein. Il n'y a même plus un petit peu d'écume à la table du Conseil européen, donc on va tirer les conclusions, et peut-être que si on regarde un peu ce qui se passe en Hongrie, au Danemark, etc., elle est plus que bleue à certains égards.
Voilà, moi, à ce sujet, je voudrais rajouter que quand même, entre la vague rose et maintenant, il y a eu la crise économique, et il y a eu aussi un renforcement des contraintes européennes. Donc dans le cadre dans lequel on se trouve maintenant, ce serait peut-être beaucoup plus difficile pour une vague rose éventuelle d'avoir des effets concrets. Voilà, on peut penser à Tsipras, on peut penser à Hollande. Bon, voilà, on peut discuter, est-ce que Hollande vraiment avait envie de faire quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai l'impression que même en cas de vague rose, rouge ou tout ce que vous voulez, ce serait beaucoup plus difficile maintenant pour un ensemble de gouvernements de vraiment modifier l'orientation qui est prise. Voilà.
Alors vraiment en lien aussi avec le fonctionnement général de l'Europe, est-ce qu'on n'a pas le sentiment à vous écouter, peut-être, en tout cas c'est un sentiment relié, que l'Europe cherche à courir avant de marcher, c'est-à-dire à des... Comme je comprends la question, et peut-être que la personne qui la porte pourra la nuancer, est-ce qu'il n'y a pas une série d'objectifs très ambitieux qui sont fixés, et puis derrière, une espèce de... je vais vulgaire, je peux pas, de grands brôles avec des choses qui vont dans tous les sens, et ça ne permet pas de cimenter... quelque chose qui serait de l'ordre d'une politique européenne sur les matières qui nous occupent. C'est comme ça. La personne qui a posé cette question-là, peut-être qu'elle peut nuancer ? Non ?
Il y a moins de répondre. En gros, il faut bien avoir en tête que, comme Bernard l'a dit, c'est des contextes qui sont hyper différents. Il y a 27 pays, bientôt 27. C'est des contextes très différents, avec des traditions très différentes. Et donc, cimenter une vraie politique, au sens où on l'entend, dans un contexte national ou régional, cimenter une vraie politique en béton, etc., c'est juste pas possible, parce que les États sont jaloux de leurs prérogatives. Ils veulent pas abandonner toutes leurs prérogatives à des organismes comme ça au-dessus d'eux. Et d'ailleurs, les électeurs seraient vraiment fâchés de voir les États abandonner toutes leurs prérogatives en matière de politique de l'emploi ou de formation, etc. Donc, une politique cimentée, comme on l'entend chez nous, disons, dans le cadre d'un État, c'est pas forcément possible, ni même souhaitable, peut-être, au niveau européen.
Mais si c'est du ciment néolibéral, on peut espérer qu'ils ne prennent pas. Il faut faire attention dans la présentation des choses avec les États qui seraient jaloux de leurs prérogatives, qui sont frileux, qui sont méfiants, etc. Bon, certes, il y a des dépendances au sentier du passé de l'histoire aussi, mais il y a aussi des vrais conflits de valeurs entre un projet européen qui est clairement un projet de mise en concurrence des individus et qui est un projet qui vise clairement à contenir la progression des salaires pour maîtriser l'inflation. C'est-à-dire l'objectif ultime de la politique sociale, c'est bien celui-là. Alors, parfois, on a l'impression qu'en effet, il y a que l'Europe court. Oui, je pense qu'en effet, l'Europe court. Ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a une présentation, il y a un vocabulaire européen qui n'est pas toujours accessible et qui peut parfois nous tromper sur les ambitions. On a parlé de la flexicurité tout à l'heure. Prenez les textes européens sur la flexicurité. Ils nous disent quoi ? Ils nous disent qu'il faut des systèmes de sécurité sociale modernes. Je veux dire, qui est contre un système de sécurité sociale moderne ? Lève la main. Qu'il nous faut un droit du travail performant et adaptable. Qui est contre un droit performant et adaptable ? Lève la main. Qu'il nous faut des politiques actives, des politiques de l'emploi actives et efficaces. Bon, personne n'est pour des politiques inactives et inefficaces. Hein, donc derrière la formulation assez ambiguë, ben il faut aller chercher, il faut décoder, il faut comprendre les interprétations. Quand on parle de la garantie pour la jeunesse, bon, il faut garantir à tous les jeunes un emploi ou une offre d'emploi ou une formation ou une mise en parcours ou etc. C'est sympa. Le problème, c'est que dans in fine, on garantit tout sauf l'emploi. Non pas parce que les formations ne mènent pas à l'emploi, c'est pas ça la question. C'est parce que du côté européen, du côté des politiques nationales, dans le paradigme actuel, on se refuse, en tout cas en très grande partie, il y a quelques quelques gouvernements qui prennent parfois des initiatives intéressantes, mais on se refuse à agir sur l'emploi. On considère qu'aujourd'hui, que l'emploi, c'est l'affaire de l'économie. Alors qu'il y a quelques années, on considérait que l'État avait un rôle majeur et essentiel dans la dynamisation de l'économie, en matière de création d'emplois, etc. Aujourd'hui, un emploi public, c'est l'horreur. Regardez les programmes des candidats à la présidentielle en France. Ils veulent à peu près tous supprimer, gauche comme droite, ils veulent à peu près tous supprimer des emplois publics, sauf dans la sécurité. Mais donc, les seuls emplois aujourd'hui qu'on peut créer sont des emplois de policiers ou de militaires dans la rue. Tout le reste est considéré comme quelque chose d'atroce, on ne considère plus, alors que si on prend bêtement une logique comptable et le PIB, un emploi public, ça contribue au PIB. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une obsession de la limitation, pas seulement des déficits, mais des budgets publics, qui fait en sorte que le rôle de création d'emplois n'est plus considéré comme quelque chose de légitime.
Merci. Alors, des questions maintenant qui reviennent peut-être plus concrètement sur... les politiques en matière de formation. Donc, une demande de revenir sur la DIA, une des dernières diapositives sur les grands éléments, les tensions, notamment que vous avez identifiées sur les politiques éducatives. Donc, peut-être y revenir. Et alors, en lien peut-être avec ces diapositives et les éléments de tension, des questions plus précises sur comment jouent ces tensions autour notamment du décret CISP et de la politique d'insertion socio-professionnelle en région wallonne. Parce que c'est notamment un des aspects que vous avez relevé sur l'institutionnalisation de l'ISP en Fédération Wallonie-Bruxelles.
On va reprendre les choses. D'abord, le dernier slide. Désolé, j'étais un peu long, un peu bavard, et donc j'ai dû accélérer, et c'est toujours sur la conclusion qu'on coupe un petit peu. Il me semble que le fond du projet européen repose sur une vision de l'homme qui est finalement celui de l'individu dans une société fluide. La dimension collective m'apparaît peu présente dans ce discours européen et dans sa traduction politique. L'homme est l'individu qui se valorise par son existence sur un marché du travail. Un marché, c'est par définition l'endroit de la rencontre d'individus atomisés. Et le modèle de société est celui de cette société fluide où l'on doit changer de statut, changer d'emploi, changer de position de manière assez récurrente. J'ai repris cette idée de société fluide si on peut appeler un intellectuel, un écrivain, en tout cas un Américain qui a écrit un bouquin. Cet Américain s'appelle Goldfinger, ça ne s'invente pas. Il écrit « Vers une société fluide ». J'avais un jour été invité par l'International de l'intérim écouter ce génie de la prospective qui nous expliquait que avant on pensait la vie de manière très linéaire, on était petit, on était enfant, et puis on allait à l'école, et puis on avait une formation initiale, et puis on allait en emploi, et puis à la fin de l'emploi on allait en retraite. Mais tout ça c'est fini, aujourd'hui on fait des allers-retours entre l'emploi, le chômage, la formation, voilà, il y a plus de parcours linéaire, il y a plus de temps rythmé de la vie. C'est pas parce qu'on a atteint l'âge de la retraite qu'on travaille plus, c'est pas parce qu'on est au travail qu'on doit plus se former, c'est pas parce qu'on est en formation qu'on doit plus travailler, enfin voilà, il y a plus de frontières entre tous ces statuts, les étudiants travaillent, les travailleurs ne travaillent pas ou sont en formation, les retraités sont en formation, sont en travail, d'ailleurs l'âge de la retraite, c'est une pure convention. Voilà, et donc ce modèle de la société fluide, finalement, quand on regarde bien les instruments qui sont mis en place au niveau européen, on peut se dire que quelque part, alors cet idéal n'est pas formulé de manière aussi claire, aussi limpide que par ce Goldfinger, mais à travers la flexicurité, etc., quand on promeut la facilité du licenciement, quand on promeut la limitation dans le temps des allocations de chômage, c'est ce qu'on appelle une sécurité sociale moderne, et quand on promeut l'activation à travers la formation, etc., ben on sent bien que C'est ça, ça s'appelle modernisation du droit du travail, adaptation aux défis, aux changements technologiques, etc. Donc il y a tous les mots à consonance un peu neutre, hein, le vocabulaire à code neutre, comme dit Jean-Claude Barbier, qui reflète un peu ce modèle de société. Alors, le processus européen, ce ne sont pas que des idées, comme je l'ai indiqué, ce sont aussi des coordinations, des processus, des étapes, des rapports, des consultations, des colloques, des séminaires, etc. Donc il y a une mécanique de conversion, de conversation qui conduit à la conversion d'acteurs nationaux, de médiateurs, de spécialistes des questions européennes qui finalement vont intégrer, absorber ce discours et tenter de changer les organisations auxquelles ils appartiennent, de manière consciente ou inconsciente. J'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues qui travaillent dans ce qu'on appelle la filière emploi, hein, les gens qui au ministère de l'Emploi, de cabinet, organisation syndicale, organisation patronale, administration, contribuent à l'élaboration des indicateurs, des rapports, etc. Et ces gens, à certains moments, utilisent le mot « nous » pour parler « nous », l'équipe des spécialistes emploi. Donc leur identité professionnelle, c'est plus « je suis membre du ministère machin, je suis militant syndical », c'est « nous, les spécialistes emploi », c'est nous qui faisons. Alors nous, la réduction du temps de travail, on n'aime pas trop. Nous, la formation, on considère qu'il faut qu'elle soit au service de nous, etc. Donc il y a un détachement de l'identité professionnelle première vers la création d'une nouvelle identité européenne. Des chercheurs ont appelé ça un transfert de loyauté vers une nouvelle légitimité, et on trouve que c'est au niveau européen que les solutions sont les plus adéquates, etc. Et tout le processus est créé autour de ça. Il y a un appareil d'initiation, de conversation, et puis il y a ce qu'on appelle les modèles de référence, je cherche le mot, les structures de plausibilité, voilà, qui nous montrent qu'en effet les recettes marchent. Il y a toujours un exemple quelque part qui montre que les recettes européennes marchent. La flexibilité, ça marchait parce qu'on avait l'exemple danois. Le temps partiel, ça marche parce qu'on avait l'exemple aux Pays-Bas. La flexibilité de travail, ça marche parce qu'on a l'exemple en Espagne. À chaque fois, vous prenez un élément comme ça et puis vous avez un pays qui dit, regardez les indicateurs, boum, ah, ça marche super. Donc la flexibilité pour les jeunes, c'est super. L'Espagne, au début des années 2000, vous aviez une croissance folle de l'emploi, des emplois extrêmement précaires, mais les chiffres du chômage étaient impressionnants. Aux Pays-Bas, si vous regardez la quantité de travail en heures de travail par individu, la quantité de travail est la même qu'en Belgique. Okay. Pourtant, ils ont un taux d'emploi qui est bien supérieur, mais ils ont plus de 75% des femmes qui travaillent à temps partiel, temps partiel généralisé. Donc, chaque fois, on dit, ah, regardez, dans les pays les plus flexibles, le taux de chômage est moins élevé. Au Danemark, on peut licencier facilement. Ah, le taux de chômage, il est moins élevé aussi. Donc, il y a des structures de plausibilité, il y a des rapports, il y a des experts, il y a des processus de coordination qui fait qu'on change nos représentations. Et donc, si on change nos représentations, on change aussi les rapports de force entre acteurs ici. Il est bien difficile. Jeudi, vendredi, il y a un séminaire européen sur la réduction du temps de travail. Plein d'acteurs européens qui se réunissent au Parlement européen, qui veulent réinscrire à l'agenda européen un projet de réduction du temps de travail. Enfin, c'est écœurant. Les gens qui boulottent aujourd'hui, ils sont pressés comme des citrons. Et il y en a des centaines de milliers qui n'ont pas de boulot. Il y aura combien de journalistes pour venir voir qui participe à ce forum européen avec des représentants, des intellectuels, des syndicalistes, etc., de tous les pays européens au Parlement européen. Personne ne le sait. Voilà. Pourquoi ? Parce que le thème n'est pas à la mode, parce que le thème n'est pas à l'agenda politique, parce que si le processus européen place un projecteur, comme je disais tout de suite, et place un certain nombre d'éléments en lumière, il place aussi dans l'ombre un certain nombre de thématiques qui ne deviennent plus légitimes. Donc changer les idées, ça revient in fine à changer les rapports de force entre acteurs. lorsque l'Union européenne dit la compétitivité c'est important, qu'on balance des rapports sur les écarts salariaux, enfin, etc., comment voulez-vous, lors d'un accord interprofessionnel, aller réclamer 2% en plus de l'indexation des salaires, concrètement. Oui, enfin, je pourrais multiplier les exemples hein, sur le fait qu'on doit travailler plus longtemps. Qui ne sait pas qu'on va devoir travailler plus longtemps ? Notre société est deux fois plus riche qu'il y a 25 ans, mais tout le monde est convaincu qu'on doit travailler plus longtemps. C'est une évidence, on nous le répète tellement que... voilà, alors essayez d'aller négocier une prépension quand on vous dit que vous devez travailler plus longtemps, etc. Et enfin, dernier élément, l'européanisation produit des changements qui ne sont pas tous des révolutions, hein, qui sont des petits changements, des petits aménagements, qui sont chaque fois justifiés, légitimés par prescrit européen, mais dont la somme des changements finit par changer les objectifs premiers ou vraiment la nature de l'instrument, ce qu'on peut appeler le paradigme de la politique publique. Même si, je veux dire, rarement, on ne fait table rase du passé que dans les chansons, hein, dans les politiques publiques, on travaille beaucoup par incrémentalisme, on ajuste à la marge, mais cette succession de changements, je vous ai essayé de montrer dans le champ de la formation, l'ensemble des petits changements qui apparaissent. En soi, chacune des réformes n'est pas nécessairement une révolution, mais l'ensemble contribue à créer un nouveau modèle et une nouvelle représentation de l'homme, du rôle de la formation, du rôle des politiques, du rôle de l'économie, etc.
Il y avait une question peut-être par rapport à cette européanisation. Qu'est-ce que vous pouvez percevoir, vous, en termes de changement au niveau des politiques wallonnes d'insertion socio-professionnelle ?
Oui, j'ai essayé de l'indiquer dans ce que j'ai montré dans les derniers points de la présentation. Donc, je ne connais pas de fond en comble le décret CISP, donc je vais essayer d'éviter les pentes glissantes. mais ce qui me semble dans... Enfin, une idée qu'on peut retenir, c'est que par rapport à ce discours européen, clairement, en région wallonne, on n'a pas les acteurs, les gouvernements, etc., qui sont les plus réceptifs à l'idéologie européenne. Hein. Vous voyez ce qui se passe lorsque un parlement démocratiquement élu ose s'opposer à un projet de traité de libre-échange au niveau international. Vous voyez le scandale que ça procure. Comment est-ce que des représentants du peuple peuvent avoir une idée qui va contre les représentants d'une administration? Enfin, c'est bon. Mais donc, je veux dire, en termes de culture politique, en région wallonne et à Bruxelles, on a quand même encore un héritage, on a quand même encore des acteurs qui ont des valeurs, etc. Et ce qui explique qu'on a souvent des politiques lasagnes, hein, ou une réforme qui va dans le sens de l'Union européenne est parfois contredite par un héritage du passé, et on cumule un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de dispositifs, et on peut dire à la fois il est important que les opérateurs privés prennent leur place dans une gestion mixte du marché du travail, blablabla, et en même temps dire il est important que des opérateurs associatifs, qu'une connaissance du terrain, un ancrage historique lié aux mouvements sociaux, etc., s'occupent des publics les plus défavorisés. Donc on procède de cet agglomérat de logique et de dispositifs avec des effets d'aller-retour. Hein, c'est pas uniquement wallon, hein, c'est aussi typiquement belge. Hein, le pacte de solidarité entre les générations en 2005, vous en souvenez peut-être. Hein, on décide qu'on va raboter les prépensions, etc. Et puis lorsque les interlocuteurs sociaux doivent préciser le pacte, eh bien ils vont mettre un certain nombre d'exemptions et ils vont faire en sorte que finalement, après le pacte, on peut accéder plus facilement à la prétention qu'avant le pacte, enfin, ce genre de choses. Mais ça fait partie de cette dialectique et de ce jeu d'acteurs, de résistance, de propositions, d'acteurs programmatiques, hein, qui vont utiliser les ressources européennes pour mettre en œuvre un programme pour changer, et d'acteurs veto qui vont mobiliser l'argumentaire européen pour dans une logique de positionnement et dans une logique de résistance.
Je ne suis pas non plus un spécialiste du décret 6 wallon, mais on peut quand même noter que dans le décret 6, il y a cette injonction qui est faite de faire référence à des référentiels de formation. Et alors ça, je pense que ça participe certainement de cette injonction à la transparence, au fait qu'on doit pouvoir positionner les formations et les acquis résultant de ces formations de manière claire, sur une certaine échelle, pour que les parcours de formation soient plus lisibles. Donc je pense que clairement, dans le décret CISP, et notamment via cette injonction à utiliser des référentiels, il y a de ça. Alors, il y a ça aussi à lire écrit, parce qu'on travaille justement sur un cadre de référence, presque pour prendre les devants par rapport à des injonctions similaires pour l'alpha. Donc on cherche un peu, c'est un peu un jeu d'acteurs, je pense qu'on pourra en discuter, mais c'est un jeu d'acteurs qui consiste à dire, voilà, faisons d'abord, avant qu'on nous le demande, presque ce qu'on va nous demander dans des conditions beaucoup plus contraignantes si on attend et qu'on fait rien. Donc voilà, il y a un jeu comme ça d'initiative qui participe du jeu d'acteurs dont tu parlais, je crois. Voilà, donc ce qu'il y a à faire, oui, il y a l'inertie à faire valoir ses logiques et peut-être utiliser aussi les injonctions comme un levier d'action. Là où on demande, voilà, faites ça, etc., qu'est-ce que vous faites ? Dire, voilà, nous, on fait ça, c'est ça qu'on fait, c'est notre métier, c'est ça nos valeurs, etc. Donc je pense que, voilà, y a, comme tu parlais d'une lasagne, etc., je pense qu'un jeu d'acteurs, une dialectique, dans ce jeu-là, il y a moyen de faire valoir toutes sortes de choses.
Alors, une question qui porte sur un autre type d'instrument, enfin un type d'instrument des politiques européennes, c'est tout ce qui concerne les appels à projets concernant les formations, donc à la fois Fonds social européen, plus d'autres fonds. Il y avait une question à MIF, donc c'est un fonds asile, migration, qui est plus là sur axé sur les politiques primo-arrivants, les fonds structurels. Et peut-être préciser comment il joue, où est-ce qu'il se situe dans ces cadres généraux. Et d'autre part aussi dans la question, au travers de la question qui est posée, le sentiment qu'on passe parfois de plus en plus de logiques d'appel d'offres, d'appel à projets, à des logiques de cahier des charges.
Oui, sur le principe général de la logique de projet, plus largement que les appels FSE, cette logique de mise en projet, c'est un produit dérivé d'une nouvelle logique managériale. Longtemps, on a considéré que les individus, les travailleurs avaient un métier, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Un éducateur de rue, il avait un métier, il était éducateur de rue. Aujourd'hui, on va lui demander un projet qui va être nécessairement limité dans le temps et qui va être soumis à l'évaluation. Donc la logique de mise en projet, ça permet de mettre un stop à certains acteurs, ça les insécurise et donc ça les discipline. Indépendamment du FSE ou de la MIF ou tout ce que vous voulez, hein, mais globalement, dans une entreprise, dans une administration, ou n'importe quoi, on dit plus tu es fonctionnaire spécialiste 2, ou tu es comptable, ou tu es, etc. Non, tu rentres dans une logique de projet. Donc, quels sont tes objectifs à moyen terme? Quels sont les moyens dont tu vas mettre en œuvre, etc. D'une part, et d'autre part, ça participe aussi à la standardisation des procédures. Là, je reviens vraiment plus sur le FSE, dire bon voilà, maintenant il y a des objectifs, il y a des moyens de faire, il y a des moyens de manager votre projet, il y a des indicateurs qui servent le projet, donc les projets sont comparables, on peut comparer les résultats, on peut comparer les méthodes, on peut harmoniser les méthodes et on peut in fine évaluer les réalisations et éventuellement décider de la prolongation du projet ou pas. C'est là que je reviens aussi sur un certain bémol. Alors certes, il y a cette logique de projet. Certes, c'est extrêmement embêtant, pour rester poli, pour les opérateurs. J'ai eu l'occasion de faire un bout de chemin avec une ASB de l'insertion à Bruxelles. Donc je vois bien la charge administrative, les dossiers européens, etc. Je sais bien ce que c'est. Donc certes, il y a tout ça. Il y a cette logique de projet. En même temps, on est encore dans un pays où aussi il y a une certaine stabilité du secteur. La stabilité est garantie parce que les portes sont fermées et qu'on joue aussi dans un nombre d'acteurs relativement limité. Certes, sur certains nouveaux terrains, comme l'accompagnement des chômeurs, il y a des appels à projets, et c'est là que l'idéologie joue à plein. Et que la dérive qui est vraiment dangereuse, c'est de considérer le secteur associatif comme un acteur privé. dans le discours européen officiel, etc. Une SBL, c'est un acteur privé. Bon, c'est NGO, c'est privé, ONG, mais c'est privé. Donc si c'est privé, il n'y a pas de... Il n'y a plus aucune raison objective de considérer différemment un acteur privé qui relève historiquement d'une SBL liée à un syndicat ou quelque chose du genre, et un acteur privé qui est un acteur commercial. Donc là est la vraie logique. Mmh. Mais dans le secteur de l'insertion professionnelle, il me semble que le jeu est relativement fermé. On joue à, en gros, enveloppe plus ou moins fermée, et donc, par les politiques d'agrément, on ne fait pas rentrer de nouveaux acteurs, ce qui permet de donner un peu de pérennité au champ. Donc il faut toujours avoir, je pense, un regard un peu nuancé sur l'évolution des politiques publiques. Mmh.
Ouais, ok, donc sur la place du FSE et où est-ce que le FSE rentre dans tout ce qu'on a dit dans les exposés, ben, le FSE en fait il est conçu comme venant en appui de toutes les stratégies dont on a parlé. Donc on a parlé des objectifs, des indicateurs, des choses que les États doivent faire, que les acteurs doivent faire pour poursuivre la logique dont il a été question. Et le FSE explicitement, il est censé appuyer des projets qui vont dans le sens des priorités européennes. Donc il est là en appui. Alors ce qui est assez intéressant avec le FSE, c'est qu'il arrive, enfin il y a des études là-dessus, il arrive à avoir un impact assez important finalement, alors que les montants en jeu sont assez faibles. Si on compare tout ce qui est dépensé pour la formation, par exemple en Belgique francophone, et le pourcentage de ça qui vient du FSE, on voit que c'est assez faible. Mais là encore, c'est des acteurs qui s'en emparent, par exemple des CPS qui remettent des projets, etc., et qui poussent une certaine logique, ou certains politiques, par exemple, qui vont s'emparer du FSE pour pousser une certaine logique. Et évidemment, pour ça, quand on fait un projet FSE, on ne doit pas passer par un parlement, on ne doit pas passer par une consultation démocratique, etc. On fait un projet, on fait une nouvelle initiative, et on la pousse comme ça par la porte de derrière, on peut dire. Simplement, ce qui est bien avec le FSE aussi, c'est que ils ne contrôlent pas tellement sur le contenu, donc ça fait que pas mal d'associations peuvent avoir utilisé le FSE et faire des choses qui sont plus ou moins dans leur ligne à elles, dans leur culture, dans leur valeur à elles, sans être pénalisées. Il n'y a pas des types du FSE qui vont débarquer, qui vont dire « Ah non, vous n'êtes pas néolibéraux, on vous coupe l'argent ». Les contrôles qu'ils font, c'est plutôt un contrôle vraiment plus formel, je pense, c'est ça, hein, plutôt que sur le contenu. Alors, il y avait une question sur l'AMIF. La MIF, en fait, c'est un peu le même principe, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais l'Union européenne, en matière de politique d'intégration des étrangers, elle a toute une série aussi de principes non contraignants qui sont dans les divers documents, dans lesquels notamment on peut retrouver la question, le principe d'un parcours d'intégration. Il faut faire des parcours d'intégration avec des formations FLE, etc. etc. Donc tout ça, c'est exposé dans des documents programmatiques non contraignants, un peu comme les stratégies dont on a parlé, mais pour l'intégration. Et donc, comme le FSE, la MIF, elle est là pour appuyer la mise en œuvre de ces programmes-là sur le terrain. Donc, il faut rentrer des projets qui sont supposés aider à ce que ces programmes, ces grandes lignes directrices soient mises en œuvre. Donc oui, je ne suis pas expert. J'ai écrit un petit truc là-dessus, mais... Il y a des gens assez spécialistes qui disent que, par exemple, la MIF a joué un rôle décisif dans la mise en place de parcours d'intégration obligatoire. Le fait qu'il y ait des fonds disponibles, etc., c'est vraiment clé pour qu'on se dise « Ah ouais, tiens, bah alors faisons des parcours, etc. » Voilà. Mais on peut lire ça vraiment, la MIF et la stratégie, les grandes lignes européennes en matière d'intégration, on peut lire ça, c'est un fonctionnement parallèle à des stratégies pour l'emploi ou social et un budget après en appui, quoi. Voilà.
Voilà, alors on me rappelle l'heure. Donc il y avait encore toute une série de questions qui posent les questions des publics. Je vais les lire et puis après je pense qu'on peut refaire aussi le lien avec l'intervention de Myriam pour voir un peu quelle est la place, quels sont les espaces qu'on peut occuper par rapport à nos préoccupations. Donc, à propos de notre public, ce sont en majorité des femmes. L'impact de la formation est surtout une plus grande estime de soi, une confiance en soi. Est-ce que les politiques européennes viennent soutenir ces approches? Alors, une deuxième question. Les politiques européennes FSE visent à toucher des publics éloignés de l'emploi. Mais le public de lire et écrire n'est pas uniquement éloigné de l'emploi, il est aussi éloigné d'un logement digne et de tous les droits fondamentaux en général. Et quelle est la place de l'alpha populaire dans cette réalité socio-économique ? Donc, j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi en Europe une très grande tradition d'éducation populaire. Hein, donc, je pense qu'il y a aussi une place. Et effectivement, comme Antoine le soulevait, par exemple, à lire et écrire, ce qu'on rend dans le cadre des projets FSE, comme dans le cadre de la reconnaissance CISP, c'est bien l'alphabétisation populaire. Et bon, jusqu'à présent, tout passe. Donc voilà, maintenant, c'est pas sans contrainte et sans tension. Donc, je pense que la question de la place des publics et de qu'est-ce que mobilise l'alphabétisation, qui sont vraiment des questions au centre de nos métiers, ça peut peut-être rejoindre aussi la question et l'intervention de Myriam Schroers, qui est de dire, ben, à partir de... Donc, qui est coordinatrice pour la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'Europe, hein, des politiques. Elle précisera si a lieu. Et donc, à ce titre-là, a peut-être certainement une expérience sur comment concrètement les choses se passent dans tous ces espaces que vous avez identifiés, qui sont des colloques, des conférences, des groupes d'experts. Voilà.
Merci. Oui, donc, tout simplement, pour dire, voilà, effectivement, coordination nationale, enfin francophone, entre la communauté française et l'Europe. Mais prochainement, cette matière sera reprise par ma collègue Michel. Voilà. Mais non, quelques commentaires, parce que je dirais, pris sous un autre angle. Donc, ça fait plus ou moins 10 ans que je jongle avec les thématiques européennes et la communauté française, et donc notamment une présence dans tous ces groupes de travail qui touchent les politiques d'adultes. Alors, c'est pour ça que je le dis, je vais peut-être prendre sous un autre angle, avec une autre question, en disant, mais finalement, qu'est-ce que l'Europe peut nous apporter, devrait nous apporter ? Et j'ai quand même envie de donner déjà une réponse qui est la mienne de par toutes mes réflexions, c'est que, on le veuille ou non, je pense que c'est quand même un levier d'action très important. Parce que, quelque part, dès que l'Europe produit quelque chose, ça nous met quand même dans une position réflexive. Et je trouve que, peu importe l'institution ou l'instance, qu'elle soit politique ou non politique, je pense que le fait d'être mis dans une position réflexive par rapport aux enjeux de l'institution à laquelle on appartient ou pour laquelle on travaille, c'est essentiel. Donc, ça c'est une première chose que je voulais dire. Donc, à mon sens, c'est un levier d'action, avec du financement, comme ça a été dit, et il ne faut pas le négliger, le fait de mener des expériences, je suis aussi également fort impliqué dans la validation de compétences, nous faisons également plus de tas d'expériences avec les moyens européens, ça nous permet de faire des expériences, des études, et également de nouveau de nous retrouver dans une position de réflexivité. Alors j'ai tendance à dire qu'on le veuille ou non, ils sont là. Alors, qu'est-ce que je retiens de ça ? C'est que, mais si on veut que le message propre au secteur de l'insertion socio-professionnelle auquel j'ai toujours été sensible passe, il faut se manifester. Et donc, si je prends l'exemple des trois derniers groupes de travail des politiques d'adultes à l'Europe, il y a toujours eu un lobbying important de plusieurs personnes, avec en tête notre collègue de la Norvège, Graciela Sbertolli, et Michel, qui nous a accompagnés lors d'un groupe de travail, si je puis dire, d'un séminaire, et qui est venu parler de la plateforme, je dis, il faut que l'on puisse assurer la présence, et donc il faut que l'on puisse aussi alimenter les représentants de notre partie francophone qui sont à l'Europe dans les différents groupes de travail. Parce que, effectivement, dans tous ces groupes de travail, c'est vrai qu'il y a une structure européenne, et je suis tout à fait d'accord avec un certain nombre de choses qui ont été dites jusqu'à présent, il y a une structure européenne, mais dans cette structure, s'il y a ces groupes de travail, il faut y porter les messages, parce que ce sont les résultats de ces groupes de travail qui vont alimenter les réflexions. Et donc, on ne peut pas jouer la chaise vide. Mais il faut y aller avec un message. Et donc, moi-même, j'ai toujours soutenu ce message, et je pense qu'il faut continuer à le faire. Ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai toujours défendu, et encore maintenant, que les attitudes pertinentes, de manière institutionnelle, ne reposent pas spécialement sur l'argent, même si on sait que c'est le nerf de la guerre, mais surtout sur des valeurs. Et si je reprends un exemple, Michel, la plateforme, pour laquelle nous avons œuvré il y a pas mal d'années, la plateforme de l'Alpha, elle a été construite sur base de valeurs. On n'a jamais commencé à se dire, mon Dieu, d'où va venir l'argent, qui va nous le donner? On s'est dit, on va aller voir tout le monde, les politiques, et voir qui met un peu d'argent dans l'escarcelle. Mais ça a été construit sur base de valeurs. Et donc, je pense que c'est en termes de valeurs qu'il faut continuer toujours à positionner le secteur. Et au niveau de l'Europe, de mon expérience, il y a toujours eu des compromis dans la logique européenne et la logique du secteur de l'insertion socio-professionnelle dans nos débats. Et donc, et ça ne m'étonne pas quand Antoine dit il n'y a pas eu de commentaires sur le contenu de l'expérimentation, c'est ça que tu disais là tout de suite
Sur le Fonds social européen.
Par rapport au Fonds social européen.
Ils contrôlent l'effectivité de l'action, des dépenses, etc. Donc, mais ils n'interviennent pas sur le fonds pédagogique.
Donc ça veut dire que l'on doit œuvrer à ce niveau-là aussi, parce que malgré tout, malgré ce que l'on dit, quand on est à l'intérieur, on voit bien que l'on tient compte de tout ça. Alors, ce que je voulais également dire en termes de défis et enjeux, qui sont un peu en lien avec tout cela, c'est que j'avais assisté il y a quelques mois à un séminaire de l'Interfédé à Namur sur les référentiels et sur la certification, qui sont quand même des débats très importants aussi. Je pense que ça aussi, c'est important. Parce que j'ai toujours dit, et je maintiens, il faut que le bénéficiaire soit au centre de nos réflexions. Et alors, je peux comprendre que pour un secteur comme celui-ci, c'est très difficile. Mais donc, on doit pouvoir se demander quel pas devons-nous faire dans une logique de passerelle, parce que si on est centré sur le bénéficiaire, c'est bien dans la logique de passerelle. Historiquement, il y a toujours une passerelle avec la PROMSOC et l'article 8. Mais maintenant, il y en a d'autres. Donc, il faut avoir cette réflexion de comment est-ce que nous pouvons nous positionner par rapport aux bénéficiaires en maintenant nos valeurs et ce que nous avons toujours défendu, mais en permettant de construire ces passerelles, parce que comme le cadre européen des langues, le cadre européen des certifications, il est là, qu'on le veuille ou non. Et après 10 ans de réflexion, il a quand même été voté. Donc on n'y échappera pas. Donc comment se préparer au mieux par rapport aux valeurs qui sont défendues par le secteur, par rapport aux bénéficiaires et par rapport à tous les outils qui sont là. Donc ça, grosso modo, c'était ma réflexion. Et je voulais ajouter tout de même, puisqu'on a parlé de... Moi, je le dis toujours en anglais, la skills guarantee, mais... La garantie pour les compétences. C'est vrai que je ne savais même pas que c'était traduit comme ça en français. La garantie pour les compétences. N'oublions pas qu'il y a 3 thématiques importantes. Les compétences de base, les digitales et la validation. Donc, je ne vais pas ici faire un plaidoyer pour la validation, mais c'est un outil, en tout cas, puisque maintenant, il y a une expérimentation avec AlphaVal, vous le savez sans doute. Je veux dire, c'est un créneau au sein du consortium qui nous est cher aussi et que nous continuons à développer. Donc, c'est pour ça que le cadre de cette intervention, c'était, je peux comprendre tout à fait les analyses qui ont été faites. Elles sont pertinentes et je les ai eues aussi, peut-être pas surtout, mais enfin de la même manière. Mais en même temps, soyons à l'intérieur et ici avec comment œuvrer pour arriver à réussir ce compromis entre les valeurs, entre le bénéficiaire et tous les outils, qu'on le veuille ou non, qui sont là et auxquels on doit répondre. Parce que si on n'y répond pas, on risque de pénaliser le bénéficiaire.
Merci. Donc, je pense que merci pour ton intervention, Myriam. Je pense que ça va ouvrir effectivement des portes et c'est un peu l'enjeu. Peut-être que cette journée, première journée, est très introductive et très générale, mais c'est bien comment on s'empare des leviers qui existent, avec la grosse difficulté pour des opérateurs associatifs, et l'IRECRIR est globalement un gros opérateur associatif. Il y en a beaucoup de plus petits, donc je n'ai pas parlé à leur nom. De la difficulté de suivre ces questions, de savoir où elles se posent, où elles se discutent et sur quoi. Donc voilà, et notamment la question de la validation des compétences, et pour les réécrire, un gros enjeu par rapport aux apprenants sur comment on fait reconnaître des compétences professionnelles parfois très élevées, alors qu'il y a des difficultés en lecture, écriture et calcul. Et c'est parfois en lecture et écriture et pas en calcul, et parfois c'est très complexe, hein. Donc la validation des compétences, ce sont des outils qu'on souhaite, mais l'enjeu, c'est que ça ne devienne pas un outil qui empêche à ce moment-là d'entrer en alphabétisation et de poursuivre un parcours en alphabétisation de personnes qui ne se situent pas par rapport à l'emploi et la validation. Donc on est souvent sur, on a une opportunité, elle est construite, puis ça devient une contrainte qui exclut d'autres. Donc ça, on est quand même sur des mécanismes qui sont parfois très très complexes. Mais voilà, je pense que cet après-midi, on va pouvoir avancer plus sur comment on identifie les enjeux et les leviers, et peut-être là où il faut essayer de porter un minimum de force, ou un maximum, en sachant que toutes les forces de tout le monde sont comptées. Merci pour votre attention. Alors,